C'est l'aventure. Ici Robert Blondin. L'aventure d'Olivier Jacques Charbonneau, là, ça tourne autour de la viande, des couteaux, des étals de boucher. Salut.
Bonjour.
Écoute, tu es boucher, charcutier aussi. Dis-moi juste, c'est quoi le trip, la joie d'être boucher?
Ben moi, j'ai commencé à travailler très jeune en tant que cuisinier, puis il me manquait le contact avec le service, avec les clients. Puis la boucherie, c'est le fun parce que tu travailles en alimentation, tu travailles avec des bons produits, puis tu travailles avec des gens qui sont contents de venir faire un party, puis t'en fais partie en étant le fournisseur de viande. Puis dans le fond, t'es toujours un fournisseur de plaisir puis de bonheur. Le boucher, tu vas le voir quand ça va bien, tu racontes des histoires, tu suis les gens au fur et à mesure de leur vie, puis de leur succès, puis de leurs aventures. Puis ça, c'est le fun. T'es toujours là avec les gens, puis t'es là dans leur projet de cuisine. Puis c'est un peu des projets de voyage aussi. Ils ramènent des recettes, puis ils te ramènent des idées, puis t'es partagé avec eux autres. Puis c'est un grand trip.
T'as toujours été fasciné par la cuisine aussi, non?
Oui, bien, ça vient de jeune. Ma mère est une très grande cuisinière, puis mon père, c'est un politicien, fait qu'on mange très bien chez les deux. Puis il y a toujours eu une culture de la cuisine qui était très importante à la maison, puis j'en ai toujours fait partie. Ça a toujours été un plaisir de faire partie de la famille, puis du groupe, puis de l'activité de la journée ou de la fin de semaine qui était de construire un repas important.
Oui, mais de là à devenir un professionnel, c'est autre chose.
Oui, c'est un pas de plus. Mais tu sais, ça arrive. C'est un bel accident de parcours. Là, avant qu'on commence, on parlait un peu des débuts. Là, c'est le Latina. Là, je m'enlignais en étudiant un jeu vidéo. Je voulais aller porter des CV dans une porte ouverte chez Ubisoft. Puis je me suis ramassé au Latina en face, pas loin, sur la rue Saint-Viateur. Puis à aller porter des CV, puis à dire comme motivation, je parle anglais, puis j'ai faim. Puis je suis capable de tout vendre parce que j'ai tout mangé. Qu'est-ce que vous avez là? Puis je suis déjà un des clients de des choses comme vous avez. Je peux expliquer aux gens qui travaillent comme qui sont vos clients qu'est-ce que c'est vos produits puis c'est quoi les produits qu'il faudrait qu'il y ait dans les étals. Puis ça prend du guts pour dire ça quand t'es pas encore engagé. Puis moi, ça a l'air que ça a plu. José Chrétien puis Bernard Couette, le chef boucher là-bas, ils m'ont engagé. Puis j'ai commencé avec Bernard à faire de la boucherie, puis à faire de la boucherie française, là, un peu dure. Les Français, il faut que ça avance vite, il faut que ça tape
C'est quoi employés. La différence entre ta boucherie française et celle de nos grands-pères?
La boucherie française, c'est une boucherie de finesse, c'est une boucherie de respect plus de l'animal, où est-ce qu'on valorise les morceaux au complet, où est-ce qu'on va chercher à aller chercher la valeur maximum et en argent et en produits que tu peux aller dans toute les muscles qu'il y a dans un animal. Dans un avant d'animal au Québec, souvent, on va faire des tranches de palette, puis on va faire bouillir ça longtemps, puis ça va être juste ça. Mais il y a des muscles là-dedans qui sont super le fun à faire en steak, puis qui peuvent valoir 2, 3, 4 fois le prix. Donc, c'est plus intéressant monétairement, puis c'est plus intéressant gustativement de les faire griller, puis d'en sortir plus de plaisir.
Tu veux dire que dans une pièce de viande qu'ici, on faisait effectivement bouillir quelques heures, il y a des pièces qui sont de bien meilleure qualité.
Le filet d'épaule, la macreuse dans un avant de bœuf, c'est des muscles qui sont des excellents steaks qui valent aussi. C'est un filet, là, je veux dire, ça peut être dans l'épaule, ça peut être ailleurs. C'est des fibres qui sont fines, qui sont droites. En boucherie, souvent, avec l'œil, tu reconnais plus les fibres à leur texture puis à leur finesse. Il y a des fibres larges, il y a des fibres qui sont plus fines, qui sont plus serrées. Donc, dépendant de ce que tu as comme type de muscle ou comme type d'animaux, mais tu peux avoir différentes fibres qui sont adaptées à différentes
puissances. Parlons des exemples de ces fibres-là, de coupes qu'on connaît peut-être, là.
Ben, tu sais, t'as le contre-filet, par exemple, les fibres sont un peu plus serrées, c'est plus maigre, puis t'as le faux filet, que là, t'as plus de gras. Quand tu te tranches au travers d'un steak, c'est déjà plus tendre, c'est plus moelleux, puis tu le sens tout de suite. Le rendu de la viande, juste dans tes mains, il est même pas encore cuit, puis tu le sais que c'est tendre.
Il y a bien des gens qui fuient le gras dans la viande, mais le gras dans la viande, c'est le vecteur de goût, non?
Oui, ben, pas rien que de goût, de potentiel. Le potentiel de la viande, c'est son gras. C'est-à-dire que un fromage comme une viande, ben c'est dans le vieillissement qui est son intérêt. Puis l'intérêt de la viande qui est grasse, c'est que comme un vieux fromage, ben tu vas pouvoir le faire vieillir ce gras-là puis l'affiner en déshydratant la viande lentement, en ayant des bonnes conditions d'hygrométrie puis de ventilation. Ben tu contrôles la salubrité de ton aliment, mais tu lui permets de s'affiner comme un fromage. Puis les protéines, ils se brisent, puis ça libère des saveurs puis ça devient plus tendre.
Tu l'as étudié de façon systématique ou tu l'as appris sur le tas?
Je l'ai appris sur le tas, mais en même temps, je continue de me former. Puis, tu sais, je suis autodidacte depuis le début. J'ai aucune formation. Je suis rentré dans une cuisine quand j'étais très jeune. Je suis devenu cuisinier. Je suis rentré dans une boucherie. Je regarde comment les autres travaillent. Puis, je deviens les autres. Je m'approprie un peu les techniques puis les choses que les autres ont autour de moi. Puis,
ben
je suis une
c'est la
éponge
façon
à... Ouais,
traditionnelle
exactement, c'est
d'apprendre,
ça.
hein.
C'est juste d'être attentif à ce que les autres y font, puis d'apprécier le travail que les autres y ont. Puis tout le monde a quelque chose à t'apprendre si tu donnes 2 minutes à y donner pour t'expliquer. Puis en ayant une attitude un peu socratique, naïve, là, tu t'en apprends beaucoup vite.
Qu'est-ce qui te plaît, qui t'allume le plus, là? T'es dans ta boucherie, quand t'as quelque chose à faire, que t'aimes vraiment ça, faire ça, là.
Ben, il y a plein d'affaires qui sont le fun. T'sais. Tu peux être tout seul face à ta viande, puis avoir du fun juste à préparer de la viande, à la découper. C'est vraiment un beau métier. Puis après ça, ben, le côté service aussi. Qu'est-ce que tu as besoin? C'est quoi que le client il veut vraiment? Puis qu'est-ce qu'il veut obtenir? Des fois, les gens sont trop pressés, puis ils suivent à moitié une recette ou quelque chose. Prends 2 minutes, explique-moi c'est quoi ton projet. Je rentre en relation avec toi, là, je suis pas là pour te vendre un morceau, je suis là pour comprendre qu'est-ce que tu veux faire. Je veux optimiser ta recette, moi. Je suis bon, puis je veux que tu sois bon aussi, puis je veux que tu aies du fun. Fait que, tu sais, c'est ça qu'on est là pour avoir du plaisir ensemble, puis je suis pas là pour avoir 10 piastres sur toi sur une semaine, je suis là pour avoir une relation sur 10 ans avec toi, puis...
T'es plus un marchand de plaisir qu'un marchand de
Exactement,
viande,
non, c'est ça,
finalement.
oui. Ben, tu sais, tu peux trouver de la viande à l'épicerie, mais tu peux pas trouver une relation avec un boucher à l'épicerie. C'est ça qui est la grosse différence. Ton propre boucher, ton boucher personnel, c'est quelqu'un qui est comme un peu ton comptable, ton avocat,
Ton
ton notaire, ton
spécialiste,
spécialiste, là,
ouais.
tu sais. T'as quelqu'un que quand t'as besoin d'avoir un grand moment ou à toutes les semaines d'essayer des petites nouveautés ou de varier quelque chose, ben va voir ton boucher, puis il y a tout le temps une spécialité, il y a toujours quelque chose qui est en route dans sa tête, là. On prépare l'avenir tout le temps, on est tout le temps, c'est quoi la prochaine fête, là? OK, on vient de passer le Super Bowl, la Saint-Valentin, mais Pâques, c'est dans un mois, fait que les projets de Pâques, là, c'est s'ils prennent 4 semaines à préparer, il faut acheter la viande bientôt, puis il faut préparer ça tout de suite. Fait que t'as tout un calendrier aussi de planification de ton année à regarder, puis à toujours être aussi à dernière minute pour pas avoir trop de stock, parce que la viande, c'est de l'argent qui dort, mais c'est aussi, ça évolue rapidement, comme tout ce qui est frais, comme des fruits, des légumes, du pain. Tu veux pas en avoir trop, tu veux en avoir juste assez pour les clients que tu as, puis pas rester pris avec rien. Les modèles de boucherie qui fonctionnent comme les Cévelin, comme le Latina, c'est des fusions entre les boucheries puis les traiteurs et épiceries, tu sais, où est-ce que on peut s'assurer qu'il y a une deuxième puis une troisième vie à des produits. Moi, entre autres, mon rôle au Cévelin, c'est chef charcutier. Donc, tu sais, si une fin de semaine, on n'a pas vendu des morceaux de porc qui sont encore très bons, mais que la semaine d'après, non, moi, je peux mettre du sel dessus, puis je peux faire des charcuteries, faire des rôtis de porc, puis des choses avec. Puis on fait autant d'argent, sinon plus, avec juste un petit peu de temps, puis un peu de sel, puis un peu de savoir, quand on prend 2 minutes pour réfléchir à la
C'est-à-dire que
situation.
pour la viande, là, on parle des Séverins, parce que c'est là que tu
Oui,
travailles,
c'est
mais
là
il y a
que je
d'autres
travaille.
Bien,
Ben,
aussi
j'ai
qui font.
travaillé, comme j'ai fondé la boucherie
Déjà.
avec Alexis Savoie-Bardé en 2015, tu sais ça. C'était une boucherie créative qu'on avait dit. On voulait justement sortir de la boucherie française pour faire une boucherie fusion nord-américaine française. Tu sais, des coupes entre françaises puis des coupes américaines. Le T-bone, c'est pas français, mais on en fait. Si tu veux un T-bone, tu veux un porterhouse, tu veux un gros steak, c'est quand même dans la culture des gens.
Une pièce de viande dans une boucherie comme ça, ça a une carrière parce que ça commence d'une certaine coupe.
Oui.
Comme tu dis, si ça vieillit un peu, on fait autre chose avec.
Exactement.
Puis il y a des pièces... la saucisse, ou je sais pas
peut-être,
quoi.
Peut-être, oui, mais tu sais, des pièces qui sont nobles, ils vont rester excellentes, puis plus tu peux les faire vieillir, puis au contraire, ils vont prendre de la valeur, comme un dépôt à la banque, là. Tu sais, une côte de bœuf, tu viens l'acheter en ce moment, tu la mets sur une étagère, puis comme je te dis, c'est une pièce qui est grosse, qui va prendre de la valeur dans 2 mois, dans 3 mois, elle va valoir plus cher. Fait que si tu l'achètes tout de suite au complet, que tu as ton nom qui est dessus, après ça, je veux dire, quand toi tu veux, tu te fais couper tes steaks, mais si tu l'achètes après ça, un steak individuel...
T'achètes une pièce que tu laisses vieillir chez le boucher?
Oui, absolument. Il y a plein de clients qui font ça. C'est très populaire, ça fait plusieurs années. Les gens achètent un morceau, ça leur coûte 200-300$, mais à la fin, ben s'ils seraient venus chercher des steaks vieillis qui coûtent 50$ la tranche, ben il y en a 14 steaks dans un morceau de côte. Fait que tu gagnes à la longue sur le nombre de bons steaks que tu peux avoir. Fait que tu peux te préparer à l'avance, venir me voir, puis te faire un plan pour la fête des pères, disons. Tu viens dans ces temps-ci, là, puis on regarde pour la fête des pères, qu'est-ce que tu veux. OK, ben vous allez être 16, vous allez être 20. Tu veux tant de steak, on va t'y sortir, on va t'y préparer, ils vont être prêts après.
À l'avance.
À l'avance, 90 jours. 60 à 90 jours, c'est le meilleur, selon moi.
Là, est-ce que ça dépend du chez une grande surface où tout est non, enveloppé, puis tu connais pas le boucher non plus. Là.
Même s'ils en ont une grande surface, je veux dire, ils ont pas le volume de vente après pour le faire tourner. Je veux dire, c'est le même morceau qui reste en décoration. C'est pas de la viande, c'est plus un présentoir.
Parle-moi là du monde des couteaux pour un boucher.
Ah, ben les couteaux, c'est très important. T'sais, c'est avec ça qu'on travaille, c'est différents outils. Chaque couteau a son utilité. Puis aussi, ben faut travailler différemment les couteaux qu'on l'imagine. T'sais, comme un cuisinier, il va travailler avec son couteau devant lui. Ben, un boucher, ben, presque comme un assassin, peut avoir la lame sur la main. Puis dans le fond, c'est le contrôle qui est important. Puis c'est un peu Jean-Pierre, mon père, il fait du karaté, du tai chi, différents arts martiaux. Et surtout, on fait des mouvements de torsion. Puis quand tu as ta lame vers toi, mais au moins quand tu forces physiquement, ben tes mouvements de corps envoient tes coups de couteau vers l'extérieur. Puis c'est important de contrôler aussi tes mouvements parce que tu es dans un environnement, entre autres au Cévelin, au Latina, des endroits où on est 50 employés. Là, ils contrôlent tes couteaux parce que tu peux faire mal à des gens. Puis des gens peuvent te faire mal.
Mais ces couteaux-là, c'est des couteaux très dispendieux, d'abord.
Oui, oui, c'est des couteaux très dispendieux.
Et qui sont faits, qui sont en couche. Je regarde la technique japonaise, je pense, qui sont laminés, pliés, repliés, repliés. Là.
Oui, c'est comme des sandwichs. Dans le fond, de couches dures puis de couches molles. Les couches dures, ils rouillent plus, mais les couches molles rouillent moins. Fait que dans le fond, tu t'assures d'avoir un couteau qui va être vraiment très coupant dans un sens, mais en même temps, les lames japonaises, ils sont un peu friables dans l'autre sens, donc plus fragile, il faut faire vraiment être plus précautionneux quand on a une lame japonaise. T'sais, si tu travailles en boucherie, tu ne vas pas travailler avec des lames japonaises comme si on travaillerait avec des poissons ou avec des morceaux qui sont très fins, que tu peux avoir un coup de précision très très fin. Peut-être en charcuterie ou en découpe fine pour faire vraiment un travail de présentation pour des clients. Mais en travail de désosse, de carcasse puis de travail de grosse boucherie, tu es beaucoup mieux de travailler avec des couteaux, soit des caribous, des Victorinox, pour ne pas les nommer, là, des caribous, puis ils sont un petit peu plus moelleux. Ils vont s'affiner, ils vont être meilleurs vite, mais ils vont moins durer longtemps, les Victorinox. Et ils vont prendre un peu de temps avant que tu t'habitues au couteau, mais une fois que tu es habitué au couteau, il va durer un peu plus longtemps. Fait que, tu sais, ça dépend des personnalités des bouchers puis des couteaux qu'ils aiment. Puis souvent, ben chaque boucher va avoir une gamme de couteaux qu'il va utiliser. Moi, j'aime beaucoup les couteaux.
Il y a ces couteaux, ils ne prêtent pas beaucoup, ces couteaux.
Ben rarement, mais en même temps, tu sais, il faut qu'il y ait une certaine confiance pour qu'un couteau aille à quelqu'un d'autre. Là. Tu sais, c'est une relation justement très personnelle. J'ai un couteau à lapin qui est très petit, mais que j'adore, puis que quand je désosse des lapins, ben, je veux dire, mes collègues, mon patron, ils viennent me le demander quand ils l'utilisent. Là, puis, c'est important. Là, puis...
Parle-moi un peu de charcuterie, parce que tu te débrouilles mauditement bien en charcuterie. Je ne sais pas.
Ah, ben, profiter. Ça. Je veux dire, c'est ça. C'est à force d'en faire, on devient bon. Quand à force de cogner des coups de circuit, tu finis par dire que okay, c'est pas
mais
juste la chance.
Mais il n'y a pas de limite à ça. La créativité est incroyable.
Ben, il y a la créativité, mais il y a aussi justement les sources d'inspiration. Tu peux aller dans les sources d'inspiration. Moi, j'aime beaucoup le Moyen-Âge, donc j'aime beaucoup l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, les vieux pays, la France, qui ont des traditions de charcuterie déjà incroyable. Puis j'ai fait Saint-Jacques-de-Compostelle. J'en ai vu des places en Espagne. J'en ai mangé du jambon. Je sais c'est quoi. Quand, tu sais, je veux dire, de premier plan, je suis un consommateur avant d'être un producteur. J'ai voulu voir c'était quoi. Je l'ai vu. Puis après ça, je fais, ben, je veux le faire. C'est pas...
Tu fais ça, des jambons?
Ben, des jambons entiers, c'est très compliqué. C'est long, ça prend du temps. On avait commencé à en faire avec Sava Bardé. Je sais pas s'ils ont continué d'en faire après moi. J'ai pas suivi leur développement à eux. Moi, je trouve que c'est très intéressant de faire des pièces plus petites qui vont sécher rapidement. J'aime beaucoup faire de la copa, par exemple, qui est une échine de porc qui est séchée, de la bressaola, qui est de l'œil de ronde de porc... de l'œil de ronde de bœuf séché. Puis là, ces deux-là, là, c'est des viandes crues que tu mets du sel, puis que tu laisses le temps faire son œuvre, puis ça va être comme un petit prosciutto dans les deux cas, mais beaucoup plus rapide. Là, en 2-3 mois, tu peux avoir un beau résultat, tu n'es pas obligé d'attendre un an ou deux.
Autant que j'ai vu, tu fais un boudin qui est pas mal aussi.
Oui, on en fait des 3 boudins. On fait un boudin classique qui est vraiment très bon, noir avec des oignons, de la crème, un classique français. Puis ben, des boudins plus inventifs, là, des boudins fusion. Là, tu sais, comme souvent, le boudin il est servi avec des pommes. Puis ben, pourquoi est-ce que tu mets les pommes à côté du boudin? Non, fais caraméliser tes pommes, fais-les flamber avec du cognac, mets-les dans ton boudin. Tu as un boudin aux pommes flambé. Ça, c'est malade. Un boudin espagnol, tu sais, des boudins aussi avec du riz dedans. Des boudins qui sont plus comme de tradition, justement, hispanophone. Il y a souvent un riz. Les Irlandais, eux autres, ce serait plus avec de l'orge qu'ils remettent. Il y a toujours quelque chose pour agglomérer à l'intérieur avec le sang, les oignons, le gras, tout ça. Il y a un lien un petit peu. Là, puis...
Toi, quand tu rentres au travail, là... T'es pas triste pantoute, là?
Ah, non, j'adore ça. C'est le plus beau terrain de jeu que je peux imaginer. Je fais ce que je veux avec les gens qui sont intéressants et qui veulent partager cette passion-là. Mon patron, puis l'autre d'avant, ben, c'était un ami, Alexis. Là, ça en est devenu un, Nicolas Sévelin. C'est des gens qui aussi sont passionnés puis qui ont des désirs de créer des choses puis de les voir se réaliser. Puis je leur dis, ben c'est possible. Puis dis-moi ce que tu veux qu'on fasse. Puis je vais le créer, là. Je veux dire, il n'y a rien qui est impossible à partir du moment où tu sais ce que tu veux faire.
Donc, toi, t'es un boucher qui mange de la viande.
Je suis un boucher qui mange de la viande, puis j'en mange pour aussi la prochaine viande. Tu sais, je mange là ce qui se passe, mais je veux voir qu'est-ce qui va s'en venir, puis je veux faire des affaires que j'ai pas mangées. Tu sais, c'est comme là, ces temps-ci, c'est les sandwichs. J'aime beaucoup les moufouletta, utiliser justement les charcuteries fines, faire un sandwich italien avec des relish d'olive, des choses comme ça. Ça me plaît beaucoup. Là. Puis utiliser les charcuteries dans des produits différents, puis aller les amener ailleurs.
À l'aventure aujourd'hui, Olivier Jacques Charbonneau. On va dire tout de suite quelque chose, on l'a évoqué tout à l'heure, mais on va être plus précis. C'est le fils de Jean-Pierre Charbonneau,
oui. Hein,
et de Madame Jacques.
Francine.
Voilà, qui était une grande cuisinière.
Oui.
Écoute, pour être bien franc, moi, je t'ai connu, tu n'étais pas haut. Hein?
Non,
puis
tu étais
en Afrique, en plus. Oui. C'est là que je t'ai connu.
Ah, oui.
Parle-nous un peu de ton enfance.
Bien, comme tu dis, mon père est politicien de carrière. Moi, j'ai grandi au Hilton autant que j'ai grandi à Belleuil. Après ça, ben, ça a été l'Afrique. Quand mon père a pris une pause de la politique, parce que son rêve à lui, c'est l'Afrique, c'est Souvenirs d'Afrique, c'est ça, c'est le film. Il a écrit une lettre à la personne selon laquelle le film a été fait, puis il a décidé que c'était ça, il fallait aller en Afrique. Puis on est parti au Rwanda, à Kigali, puis on est allé vivre là, théoriquement pour 4 ans. Puis ben la vie et le monde a son propre rythme, et le Rwanda, c'est aussi... Ben, le génocide au Rwanda, ça a commencé...
C'était votre départ, ça.
Ça a été notre départ du Rwanda. On est revenu au Québec un peu vite.
T'avais quel âge?
C'est 9 ans.
À 9 ans.
Ouais. Donc,
Parle-nous un peu de tes réactions. Le petit Québécois à 9 ans qui est transplanté en Afrique, c'est pas évident, là.
Ben, oui, c'est facile à la base. Tu le conceptualises comme un enfant. T'sais, moi, je voyais des maisons, hein, puis il soufflait du sable à la place de souffler de la neige. Je voyais des trucs comme ça. C'était comme un enfant le voit. Puis quand t'arrives là-bas, ben, non, il y a des bananiers, puis il y a du monde partout. Puis c'est très différent.
La relation avec les autres enfants, les Noirs qui sont là?
Il y a très peu de relations avec les Noirs. C'est beaucoup des relations avec les autres coopérants volontaires. C'est très ségrégué. Les Québécois, les Français sont ensemble avec les Belges, parce que le Rwanda est une colonie belge à la base. Après ça, ben, de l'autre côté, t'as des Anglais, des Canadiens, des Américains qui se tiennent au club américain, puis dans des hôtels plus anglophones. Puis après, ben, t'as les Noirs qui sont ensemble, c'est dommage, mais tout le monde est comme plus dans sa gang. Puis il y a un petit peu de mixité, mais c'est plus à l'intérieur des organisations que socialement ou culturellement. Là.
Mais en fait, vous faites une vie un peu de pacha aussi, hein, parce qu'il y a un boy, enfin, il y a des employés.
Il y a plusieurs maisons sur le terrain, il y a plusieurs véhicules sur le terrain, il y a des animaux. C'est pas une ferme, mais on a un poulailler, puis il y a pas de service de poubelle, mais il y a assez de place dans la forêt de bananiers pour avoir des endroits où enterrer les poubelles à différents endroits pour différentes années, depuis différentes décennies. Comme ça se fait depuis très longtemps là-bas. Je veux dire, tu changes pas l'Afrique. Tu fais juste prendre compte de qu'est-ce que c'est quand t'arrives.
Tes études là-bas, ça se passait comment?
En français, s'il vous plaît.
Oh, pardon.
Oui, bien sûr. Donc, j'ai été au lycée français des petites années. Là. Ça a duré l'année et demie que ça a été. C'est compliqué parce que c'est l'année où est-ce que t'apprends à écrire en lettres attachées. Fait que c'est un petit peu tout déboussolé, mais... mon écriture, puis ma relation aux études après aussi. Hein. Donc, après ça, ben c'est ça.
Il te reste des souvenirs particuliers qui te restent, que tu peux me conter, de l'Afrique?
Ben les souvenirs qui me restent beaucoup, c'est justement les bons côtés. C'était les voyages qu'on est allé, par exemple, au Kenya pour les vacances d'été. Puis on avait été dans un restaurant qui s'appelle Le Carnivore. Puis que là, ben t'avais un brasero d'après 4-5 mètres de large avec des brochettes de style grosse brochette kebab là, d'après 2 mètres de long en métal. Puis il y avait toutes sortes de viandes dessus, puis t'arrives là, ça c'est l'entrée, c'est déjà impressionnant, t'sais. Le sens du spectacle, il l'avait au restaurant Le Carnivore, puis après, ben, t'as des tables avec des drapeaux, ça ressemble un peu à des chucherias brésiliennes, ou comme ça, là, que tu peux te faire servir autant que tu veux de la viande. Là. Quand c'est prêt, quand les brochettes sont cuites, ben, il y a des serveurs qui se promènent de table en table, puis qui offrent de la viande à tout le monde. Là. Ça m'avait marqué beaucoup. Les safaris, que ce soit au Rwanda ou que ce soit au Kenya, ça aussi, c'est très marquant. C'est des beaux souvenirs. Mais c'est des images. Tu sais, ça fait longtemps. Puis à la fin, le traumatisme qui reste, c'est plus le départ rapide dans des circonstances un peu pénibles de la guerre.
Ouais, quand t'es arrivé, le massacre.
Oui, exactement. Donc, moi, l'Afrique, c'est le fun, mais c'est fini. Là. Je veux dire,
les seuls moments difficiles, ça a été le départ précipité.
Oui, ben c'est ça, mais c'est aussi, tu sais, c'est la fin de la relation de mes parents. L'Afrique, ça a été pour eux un moment bien ensemble, mais le retour au Québec a été difficile, puis ça s'est terminé après. Puis,
une séparation.
Séparation, hein. Puis ben, beaucoup de personnes la vivent. Là, puis,
comment tu l'as vécu, la séparation de tes parents, toi?
Oh, difficilement. Oh, ouais, j'étais très affecté. Jean-Pierre, il a été un gros job, fait qu'il n'est jamais là non plus. Fait que ça, c'est le voir disparaître beaucoup, la séparation, parce que on n'est plus dans le même endroit physique. Fait que même quand il n'est pas là, on n'est même pas dans son milieu de vie. Fait qu'on on le voit plus du tout, là. Il devient inexistant, hein, quelque part, là.
Le fait d'avoir eu aussi, donc séparé, tu vois moins ton père.
Oui.
Mais ton père était bon, il était président de l'Assemblée nationale.
Oui, ben c'est ça, et tout exactement. Ça. Là, il y a des raisons aussi
derrière ça. Il n'était pas particulièrement toujours présent, j'imagine.
Non, c'est ça.
Tu t'es beaucoup ennuyé de ton père, à cause de son métier, peut-être?
Oui, oui, beaucoup. Oui, ça a été pénible à certains moments. À ce niveau-là, on a eu des moments difficiles ensemble, puis on s'en est reparlé à plusieurs occasions. Puis c'est toujours quelque chose qui a laissé un ressenti, là, mais que, dans le fond, il faut passer au travers. À un moment donné, les gens ont tout ce qu'ils ont à donner, puis il faut accepter que les limites que chacun...
As-tu développé de l'agressivité?
Non, j'ai jamais été agressif tant que ça. J'ai toujours été plus réactif qu'actif. Là. Je bouille pas vraiment dans mon sang. Ma tête, elle bouille, mais à l'extérieur, je laisse les choses assez calmes. Tu sais, j'aime beaucoup la culture japonaise, puis j'aime beaucoup ça, le zen, puis être tranquille, puis l'espèce d'idée de le chef qui bouge pas, la montagne est immobile, tu sais. Ça, j'aime ça. J'aime ça être immobile, puis contempler les choses, puis savoir où est-ce que tout le monde s'en va, puis ça me donne une bonne idée d'où est-ce que moi je m'en vais.
On parlait de ton père et de ta mère après, mais mm-hmm. Qu'est-ce que tu dois à ton père, Jean-Pierre?
Ben, beaucoup du tempérament, son physique.
Tu lui ressembles,
ouais, je lui ressemble beaucoup. Puis, c'est ça. Lui, il a un amour des arts martiaux. Ça m'a transmis un peu un amour des cultures japonaises, même si c'est plus mon frère qui fait des arts martiaux que moi. Moi, j'ai plus été le punching bag de mon frère et de mon père pendant plusieurs années. Donc, eux jouaient les bons et moi le mauvais. Et j'étais le gros assaillant qui les attaquait, puis qui se faisait ramasser dans les mains parce qu'ils étaient meilleurs que moi. Mais ça, c'est correct parce que ça... J'ai un ego assez variable. Je suis capable de...
Variable?
Oui, oui. Je suis très, très égocentrique. Je suis tout seul dans ma tête. J'aime ça réfléchir tout seul. J'aime ça concevoir mes choses tout seul, mais en même temps... Tu peux me dire ce que tu veux, tu ne m'offenseras pas, c'est vraiment difficile de me faire rendre triste. Je suis à peu près immunisé à toutes sortes de mauvais sang ou de... Je suis heureux dans la vie, naturellement.
Et je te répète la question, qu'est-ce que t'as apporté ton père?
Ben ça.
Ça?
Et je pense que mon père est heureux naturellement dans la vie.
OK.
Puis il fait ce qu'il veut, puis le reste suit. Puis ça, faire ce que tu veux, puis que le reste va suivre. Puis d'être heureux, puis d'avoir confiance en la vie.
C'est ça qui m'a apporté. Et ta mère, t'apportais quoi?
La cuisine, l'art. Ma mère est une femme qui aime beaucoup l'art. Elle étudie en art, elle a travaillé en art avant de travailler à l'UQAM. C'est une grande communicatrice, donc les deux écrivent bien, parlent bien. Moi, j'écris pas si bien que ça, mais je pense que je parle très bien. Et puis que je
tout peux... écrit avec un couteau, de toute façon.
Oui, ben je peux écrire avec des mots aussi, mais il faut un correcteur d'orthographe très puissant pour me suivre.
Ah oui.
Ouais. Parce que ça va
donc
vite,
une détermination, puis une certaine sagesse qui vient du père,
ouais.
Et d'autre part, tout le côté
artistique,
créatif qui vient de
créatif,
la mère.
Culinaire, aventurier, observateur, volontaire. Francine est une femme incroyable qui aime découvrir les choses, puis j'ai découvert et des cultures et des recettes par ma mère, par son ouverture à toutes les formes de culture étrangère.
Au retour d'Afrique,
oui.
Séparation des parents,
oui.
Difficile pour toi,
ben oui.
Retour au Québec,
mm-hmm.
Mais t'es en pleine adolescence à ce moment-là.
Ben oui, je suis dans le génie en herbe, ça va difficilement à l'école parce que t'sais, t'es intelligent, puis t'es le fils d'un député, fait que ça fait des jeux de mots comme fils de pute, puis t'sais, t'as des... Je suis gros, je mange bien. Ça laisse des traces à l'adolescence, ça aussi, la méchanceté des autres. Puis le métier de boucherie, il n'est pas venu tout seul non plus. Là. C'est un accident de parcours. Je travaillais pour devenir un programmeur de jeux vidéo ou un développeur de jeux vidéo. J'aimais beaucoup les jeux dont vous êtes le héros. J'aime beaucoup concevoir des histoires. Je suis un maître de Donjons et Dragons avec mon frère et ses amis. Donc ça, il y a un côté de ça que j'essayais de travailler avec la 3D, puis avec la conception d'univers, puis de tous les côtés techniques qui étaient avec ça. Puis j'aime encore travailler avec les ordinateurs, là. Je suis bon en informatique, même si ça sert aucunement à la boucherie, mais c'est quelque chose que j'ai naturellement aussi.
Cette adolescence-là, mm-hmm. où tu t'es à toute fin pratique bien débrouillé, mais c'est découverte des autres, la découverte de l'amitié, de l'amour aussi à l'adolescence, ça s'est bien passé pour toi?
Non, ça s'est pas bien passé pour l'instant. Bon? Non, c'est ça, encore là, je suis pas un... je suis quelqu'un qui est... Je ne veux pas gêner, mais avec le physique plus gros, tu es un peu plus difficile d'approche, puis tu as moins confiance en toi. Donc, ça prend du temps, puis ça prend des personnes qui ont aussi quelque chose de spécial pour accepter ça. Puis ça a été très long, puis j'ai pas eu beaucoup de conquêtes.
Donc, beaucoup de frustration.
Oui, beaucoup de frustration, effectivement, à l'adolescence, puis à l'âge de la vingtaine. Là. À ce niveau-là, oui.
Puis t'as heureusement pu trouver, finalement...
Ah, ben j'ai trouvé une femme incroyable. On a passé 10 ans ensemble. J'ai un fils qui a 6 ans. Ça allait très bien jusqu'à tout récemment. Là, on est en processus de séparation, ça fait quelques mois, mais on s'entend encore très bien. C'est pas fini, c'est juste rendu où est-ce qu'on en est pour différentes raisons, mais on est quand même des bons amis, puis c'est une des relations les plus importantes dans ma vie. Là. C'est la mère de mon fils. Là.
Quand tu étais adolescent, revenons à ce moment-là, ou à la fin de ton adolescence, est-ce que tu as pu voyager par toi-même et non pas avec ta famille, comme tu l'as fait en France?
Moi, je suis un aventurier aussi à la base, puis j'ai pas peur de rien. J'ai ramassé de l'argent en travaillant dans des usines de volailles, unies dindons. À côté du Mont-Saint-Hilaire, où je vis à Belleuil, puis de l'autre côté, il y a des usines de désosse de dinde. Puis de travailler de nuit, tu as une prime de 2 $ de l'heure. Fait que tous les étés, après l'école, j'allais travailler de nuit. Je payais une fille 20 $ par jour, puis elle venait me rechercher, puis... j'avais un chauffeur désigné le soir, fait que après le travail, elle me ramenait à la maison.
Ben voyons donc.
Oh, oui. Fait que j'ai désossé de la volaille comme ça, puis ça a été mon premier contact avec la boucherie. Ça a été un abattoir, puis c'est avec ça que j'ai payé un voyage que je me suis payé en 1 an en Europe. Tu sais, le voyage que...
Un an complet.
Ben, je suis parti. Là, j'ai ramassé un sac à dos. J'ai ramassé à peu près 10 000 $. Puis je suis parti avec un sac à dos, puis je me suis trouvé avec l'Association Québec-France, un vigneron qui était dans Saint-Émilion, puis qui était à Libourne. Puis j'ai été chez le vigneron pour des vendanges de 2 semaines. Puis là, ben le propriétaire du château, il me trouvait malade et il dit « Tu veux-tu passer l'automne avec moi? Je vais t'amener partout, on va aller des dégustations de vin, je vais t'amener à y repenser, c'était un peu comme dîner de con, mais il y avait le français. Mais là, même où j'étais le Québécois de service pendant 3 mois dans un château, mais c'était la vie de château de rêve. Là. J'avais la maison à côté de la piscine extérieure, à côté de l'enclos des chiens de chasse puis de l'enclos du toucan. Il y avait une piscine extérieure couverte. Puis il y avait mon loft qui était là. Le matin, j'ouvrais la porte, la cuisinière me laissait des chocolatines. Mon linge était plié quand je revenais du travail. Je travaillais 35 heures semaine, c'est les 35 heures en France. Puis, fait que le vendredi, tu finissais à midi. Le vendredi après-midi, tu promenais à Libourne, tu étais libre. Le samedi, dimanche, c'était la Formule 1. Tu écoutais la Formule 1 avec un cigare puis avec de l'Armagnac, avec le propriétaire du château. Fait que la vie de château... Je la méritais pas, là. Je l'ai eu à 19 ans. C'était incroyable. 3 mois de château en France. Vie de châtelain, là. Travailler dans un chais à remplir des cuves, à accueillir le club Ferrari de France, puis à rencontrer des gens, même des Québécois. Il y a Champlain Charest qui est venu visiter. Champlain Charest qui arrive du Québec, un des plus belles caves à vin au monde. Je connais pas la personne, je suis pas encore éduqué dans le monde du vin. Je connais un peu le vin comme consommateur, mais je connais pas ce milieu-là. Là, il y a Champlain qui arrive avec sa femme, ils viennent acheter des tonneaux de vin, ils viennent faire des dégustations 2-3 places. Ils m'amènent dans la voiture avec eux autres, puis je fais la journée avec eux le lendemain aussi, puis je retourne avec le... C'était incroyable.
Mais as-tu eu des problèmes ou ça a été aussi beau comme ça tout le temps? Pendant un an, en Europe?
Non, il y a des problèmes aussi. Là, je veux dire, la France, c'est plus dangereux qu'on le pense. En revenant de Versailles vers Paris, dans un train, il y a deux, trois personnes, puis deux, trois autres, puis deux, trois autres qui sont rentrés. Tu sais, les cités avec les Arabes, puis des échanges dangereux, là, tu sais, c'est... Ça arrive, puis il faut faire attention. Puis il y a personne qui dit que dans les derniers wagons d'un RER, ben c'est pour la racaille. Alors, quand t'as un beau wagon tout tranquille, puis que toi, t'es solitaire de nature, tu te dis, hey, un wagon pour moi tout seul. Puis là, il y en a deux qui se ramènent, puis deux autres, puis ils commencent à t'entourer. Puis là, ben, tu sais. OK, on va jouer au poker avec eux autres. Je me lève, puis je leur dis, regardez, je pense que vous êtes là pour me voler ou pour me battre. Moi, je vais aller m'installer dans le coin là-bas. Si vous voulez venir, moi, je vous attends un après l'autre. Mais attendez. Vous venez juste un à la fois, ce serait pas juste que vous soyez là tout en même temps, vous êtes très nombreux. Donc là, je m'installe dans le coin, je suis prêt à faire éclater la gueule, puis le train arrête, deux policiers rentrent, puis ça sort par les fenêtres, puis par toutes les portes en courant. Puis les policiers me disent « Qu'est-ce que tu fais là? » Ben je fais « Ben, c'était tranquille, c'est le dernier wagon. »« Non, tu devrais pas être dans le dernier wagon. » OK, mais c'est ça, c'est la France. Fait que ça, sinon... Les autobus, parce que je me suis pris un billet d'autobus ouvert. Je pouvais voyager autant que je voulais en autobus pendant 3 mois, mais c'était à condition que je change de pays entre chaque destination. Donc, je partais de Stockholm, je m'en allais à Dover en Angleterre. Après ça, je revenais à La Rochelle, je m'en allais à Bruxelles, je descendais à Madrid, je m'en allais à Florence.
Toujours solitaire.
Toujours tout seul, avec mon sac à dos. Puis en montant les flèches des cathédrales aussi pour me préparer pour ce qu'allait être la fin du voyage, parce que je me suis tapé Compostelle à la fin. Fait que 1000 km de marche ou presque, pas tant que ça, là, peut-être 800.
Tu fais des clochers pour te faire des jambes?
Pour me faire des jambes. Ouais. Fait que, j'ai monté les clochers d'église, puis j'ai perdu un peu de poids, mais je me suis fait des muscles. Puis après, ben j'ai fini le voyage, après les vendanges, puis après la visite de tous les pays d'Europe ou presque, à part la maudite République tchèque que j'ai pas pu aller à cause du gouvernement canadien qui m'impose des visas de l'an 2000. On avait fait une publicité pour le Canada, ils voulaient des visiteurs, puis ils ont eu des demandes de visas. Fait qu'ils ont demandé des visas aux citoyens, puis en échange, mais la République tchèque a demandé des visas aux Canadiens, fait que j'ai pas pu aller en République tchèque. C'est Prague que je voulais voir.
Mais et t'as fini ça par Compostelle.
J'ai fini ça par Compostelle.
Et tu l'as fait comme il faut.
Je l'ai fait comme il faut. Puis à la fin, une fois que je suis arrivé à Saint-Jacques-de-Compostelle, le lendemain, j'ai pris l'autobus, puis je suis allé au Finistère, puis j'ai lancé mes bottes dans l'océan Atlantique.
Non.
Oui. Puis après, ça a été la fin du voyage. Je suis parti Finistère, lancé les bottes, rentré à Compostelle, pris mes choses au monastère. Puis je suis revenu à Paris, j'ai pris mes trucs, puis j'ai pris mon billet ouvert, je l'ai fait rentrer. Air Transat. Commandant Piché, mon commandant, pendant que j'étais là-bas. Ben oui, la vie est petite. Puis avec sa bardée, il y avait un food truck, puis son fils, il est cuisinier, puis un food truck aussi. Fait que tout est dans tout. Le monde est petit.
Thank you.
L'aventure d'Olivier-Jacques Charbonneau. Grand voyageur, plus jeune. Tu voyages encore?
J'ai voyagé plus aux États-Unis, puis en Ontario, au Québec, là, tu sais, ouais. Avec mon
ex. T'as fait ton grand voyage initiatique en Europe, tout jeune.
J'ai fait le voyage initiatique,
jeune.
Puis après ça, oui. des voyages en Jamaïque. Mais moi, c'est le Vermont que j'aime beaucoup, parce que, à part la viande, j'aime beaucoup la bière, puis le Vermont est un avant-gardiste dans le monde de la bière. Puis j'ai trouvé là plein d'endroits extraordinaires qui m'ont inspiré.
Toi qui as fait des vendanges en France, puis que Champlain-Charest, les grands vins et tout, tu me dis que tu aimes la bière?
Ah oui. Ben, j'ai développé ça justement parce que le voyage en France m'a... Pas qu'il m'a écœuré du vin, mais ma mère puis son mari actuel boivent des très grands vins et des très bons vins tout le temps. Et du champagne est servi chez ma mère à presque tous les week-ends. Donc, je suis triste dans la vie. Je bois le champagne à toutes les semaines quand je vais chez ma mère. Et on boit les très grands Amarone des Côtes-du-Rhône, des fantastiques vins, qui sont très bons, mais que j'ai pas les moyens de me payer. Ce qui fait que dans la vie, je n'ai décidé que de m'entourer du meilleur. Et si je peux pas me payer le meilleur, ben je ne prends pas de substitution de moins bonnes choses.
Tu vois le meilleur, tu vois chez quelqu'un qui l'a le meilleur.
Soit c'est ça, exactement. Soit je fais ça, ou soit je ne me le paye pas, puis je me paye une très bonne bouteille de bière qui va coûter 10-15 $. Puis, tu sais, il y a des bouteilles de microbrasserie de bière qui sont intéressantes, puis qui développent des saveurs différentes que le vin ne peut pas obtenir, puis que la bière a plus d'amplitude de potentiel dans les saveurs. Puis
qu'est-ce que tu penses des brasseries, des microbrasseries québécoises?
Ben, il y en a trop, mais je veux dire, c'est bien ça quand il y en a trop, parce que c'est comme la jungle, puis dans la jungle, les meilleurs vont survivre, puis il y a des pratiques qui vont se développer, puis il y a des niches qui vont se créer, puis c'est ça qui est le fun, c'est de suivre des tendances. C'est pas un monde qui est monolithique, là, c'est pas de la rousse, de la blonde, là, c'est, on a des bières maintenant qui sont très tropicales, des bières qui sont très amères, des bières qui sont très sucrées, il y a des bières pour toutes les saisons, il y a des bières pour tous les palais, Ça s'en va dans plein de directions.
Tes coups de cœur, ça ressemble à quoi en bière?
Ah ben, moi, j'aime beaucoup Jukebox, la distorsion. C'est une bière qui va justement, une IPA là, qui va être très pamplemousse, très fruits tropicaux. J'aime le Beauregard, la bière qui s'appelle Framboise Noire, une bière qui est rouge comme le sang, qui va goûter le jus de framboise, qui va être... c'est comme un petit vin pétillant, c'est très très bon. Puis on est très loin des bières qu'on est habitué. Puis j'aime les bières vieillies aussi, des bières qui vont avoir des notes très sucrées, qui vont être très caramel, des bières presque comme un dessert, qui vont bien s'accompagner justement avec des fromages comme des cheddar vieillis, puis des vieux cheddar anglais ou des manchego espagnols, des choses.
Quand tu fais à manger chez vous,
ouais.
Tu te fais quoi quand tu veux te faire plaisir?
À la maison, j'aime beaucoup, parce que je travaille beaucoup avec la viande, travailler avec des poissons à la maison. À la maison, ou quand je vais au restaurant, moi, j'aime ça, la pieuvre. J'aime ça manger des poissons, le sashimi. J'aime ça aussi voir les choses que les autres font. T'sais, comme j'aime le coureur des bois à Belleuil, le bistrot qui est dans l'hôtel sur le bord de la Vin. Puis ils ont un os à moelle, par exemple, qui est gratiné au Migron de Charlevoix. Fait que là, t'as de la moelle de bœuf fondante, t'as du Migron de Charlevoix qui est fondant, puis t'as des fleurs de Migron comme de la religieuse croustillante. Fait que t'sais, riche, c'est bon. T'sais, quand tu vas dépenser de l'argent, faut que t'aies un plaisir. Tu vas pas juste te nourrir, tu vas te chercher quelque chose de plus, là, un oomph, tu vas nourrir ton cœur aussi, là.
Mais tu m'as pas dit qu'est-ce que tu faisais chez vous. Là.
Mais chez nous, je me fais ça. Je me fais de l'os à moelle. Je me fais des choses comme ça. Quand je vais au restaurant, je me fais la même chose. Moi, je suis au restaurant chez nous. Là. Si je mange comme dans un restaurant. Je mange de la pieuvre à la maison. Je mange des pétanques. Je me fais des cailles désossées. J'arrive chez nous avec des restants de job puis des projets dans la tête. Là. Puis s'il y a des nerfs que j'ai travaillé dans la journée pour désosser une cuisse de bœuf, je les ramène à la maison, ils passent la nuit dans la mijoteuse. Puis ce soir, avec mon fils, on fait une fondue chinoise, puis mon bouillon, ben c'est un bouillon de bœuf que j'ai fait pendant la nuit avec un restant de vin rouge, des éplucheurs de légumes, puis des nerfs de bœuf. Je veux dire, il n'y a rien qui se perd, je valorise tout ce que j'ai, puis s'il y a un entrepreneur qui me laisse ramener des déchets de table comme des nerfs de bœuf qui s'en allaient à la poubelle, ben moi, je les prends, je les mets dans la mijoteuse, puis je fais mon souper avec ça du lendemain. Puis...
Un passionné de boucherie, de charcuterie, ouais. De poisson. Comment tu réagis devant des véganes et les croisés de végétarisme?
Ben, ils ont raison. Ils ont raison de se battre. La viande, c'est pas juste du beau, il y a aussi du mauvais. Puis peut-être qu'ils se battent, ils donnent des coups d'épée dans l'eau, puis ils se battent contre des moulins à vent, mais ils se battent. Il y a peu de gens qui se battent dans la vie pour qu'est-ce qu'ils pensent, mais moi, je respecte les gens qui ont des convictions. Je trouve que c'est dommage qu'ils utilisent ces convictions-là à mauvais escient, c'est-à-dire en mettant du vandalisme dans des compagnies, puis en essayant de rabaisser les autres. Je pense que si tu as un point de vue, tu peux le défendre de façon positive, puis constructive, puis faire partie de la solution en place de faire partie du problème. Puis les véganes, moi, je pense que ça fait partie de la solution s'ils sont capables de comprendre que les bouchers en font partie aussi. Le problème, souvent, des gens, c'est qu'ils sont totalitaristes. Ils pensent que dans l'ensemble des choses, il faut avoir une solution qui est égale à tout le monde pour toutes les solutions puis pour toutes les choses. Bien, dans la vie est complexe, bien, les solutions, elles sont complexes aussi. Puis je pense que le boucher a des réponses à donner. Puis je pense que les véganes, ils devraient écouter des fois qu'est-ce qu'on a à dire. Parce que on a...
Qu'est-ce que tu as à dire à vegan? Ça, là, tu m'intrigues.
Ben, les vegans s'attaquent à la viande, mais quelle viande? Est-ce qu'ils s'attaquent à de la viande industrielle mexicaine qui arrive par l'ALENA? Est-ce qu'ils s'attaquent aux viandes parc d'engraissement? Ou est-ce que, dans le fond, la viande et les bovins ou les autres animaux sont maltraités puis sont engraissés le plus rapidement possible, comme dans la malbouffe? Ben, je veux dire, c'est pas ça que je veux. Je veux encourager des individus, pas des corporations, des individus qui sont des fermiers, qui travaillent dans des fermes.
Mais ceux dont le cœur saigne au simple fait de se rappeler que c'est un animal qu'on a tué, qu'on a sacrifié.
Oui, mais ton cerveau, en tant qu'être humain, est fait de matière grise qui s'est nourrie de protéines sur des générations. Je veux dire, ils sont des êtres humains parce que leurs ancêtres ont mangé de la viande. Puis je comprends qu'ils veulent pas en manger, puis je respecte ça, puis ils en ont pas besoin, puis je respecte ça. Moi, je vais en prendre, puis moi, je veux continuer d'en prendre. Puis moi, ce que je veux, c'est que pour continuer de moi d'en prendre, il va falloir qu'il y ait du monde comme eux qui comprennent qu'il y a d'autres solutions que ne pas en manger, de choisir des bons produits. Il y a un charcutier qui travaille avec moi qui s'appelle Laurent, il a été végétarien, il a travaillé au toki, il a travaillé des belles viandes, il a le goût d'en remanger, il en mange maintenant. Mais il choisit qu'est-ce qu'il mange. Mais c'est ça que tu as envie, c'est que... Choisis qu'est-ce que tu manges. Peu importe qu'est-ce que c'est pas rien que dans ce que tu manges, ce que tu mets dans ta tête, ce que tu lis. Tout ce que tes choix influencent qu'est-ce que t'es. Puis si tu veux de la bonne viande, bien, paye de la bonne viande. Va voir un boucher. Informe-toi sur les produits qu'il y a, sur les fermes qu'il y a, sur les... Tu sais, il y a toutes sortes de
raisons sur lesquelles... Et sur une variété de produits, parce qu'il n'y a pas juste de la viande hachée, puis t-bone, puis un filet mignon, il y a d'autres choses dans la vie.
C'est ça. Il faut utiliser tout l'animal, puis il faut valoriser l'animal au complet, puis c'est ça, le respecter, puis respecter le fermier qui l'a élevé, puis respecter la carcasse, tu sais. Moi, j'ai peut-être été catholique, là, je suis peut-être rendu un peu plus wiccan, puis respecter la vie, respecter la mort... c'est important. Moi, je pense que l'animal, il a vécu, puis je veux que sa vie, elle ait un sens, puis qu'on y amène le plus de sens par le plus de valorisation qu'on peut, pas rien qu'en tant que monnaie, mais en tant que saveur, plaisir, puis volume qu'on peut en obtenir.
Parce que toi, quand tu découpes ta viande en tant que boucher, c'est pas une chose, que c'est vraiment un respect d'un animal qui est pas mort pour rien.
Non, exactement. Il faut que ça ait un sens, parce que sinon, il en passe trop. Là. Tu sais, j'en ai vu des abattoirs, j'ai travaillé dans des usines, je sais c'est quoi du gros volume, je sais c'est quoi que l'animal, il est une partie d'une chaîne de production, puis que c'est plus une commodité qu'un être vivant. Je comprends ça, puis je respecte le choix des véganes, puis en même temps, mais de l'autre côté, j'ai vu des gens qui ont eu besoin de manger, puis que c'est des fois, il y a de la viande de batterie qui coûte pas cher, puis que c'est ça qu'ils ont choisi. Puis je veux dire, je peux pas leur dire, hey, mangez de la meilleure viande, mangez-en moins. Ils peuvent pas s'en payer de la meilleure viande, ils vont juste en manger moins parce qu'elle n'aura pas le choix. Elle va devenir de plus en plus chère. Mais il va falloir qu'on apprenne tous à se modérer dans la viande, puis à avoir des bonnes relations avec un bon boucher pour trouver de la bonne viande. Puis je pense que la clé de l'avenir, c'est là-dedans. C'est de sortir les bouchers des épiceries, puis de les rentrer dans des boutiques où ils rentrent en relation avec des individus. Tu sais, c'est comme être un entremetteur. Tu veux mettre en... un fermier et un consommateur de viande.
Actuellement, tout ce qui sépare le consommateur de la viande, c'est un papier cellophane. C'est pas quelqu'un comme un boucher.
Oui, non, mais c'est ça. Il faut enlever le plastique. Là. Ouais. Il faut qu'il y ait du papier, puis que le papier respire. Le papier, comme la viande, je veux dire, comme le fromage, il faut que ça retourne au papier. Ça respire. Mettre du plastique sur un fromage, mettre du plastique sur de la viande, mettre du plastique dans ta vie, là, je veux dire, ça t'amènera pas grand-chose.
Il y a un militant chez toi, quand on est le fils de Jean-Pierre Charbonneau, on comprend un peu. As-tu épousé les causes nationalistes, indépendantistes de ton père?
Je suis nationaliste par nature à cause de Jean-Pierre, oui, mais je suis plus posé que lui. Je pense pas que le combat va amener
plus à ça. Plus posé que lui?
Oui. Ben oui, parce
ça,
que...
Ça, c'est pas difficile.
Non, c'est pas vraiment difficile. Mais je pense pas que l'indépendance va se faire comme lui en forçant les choses. Je pense que si elle a à émerger un peu comme dans Germinal, les choses... prennent du temps des fois à germer, mais les choses finissent par arriver quand elles sont dues pour arriver. Et j'ai confiance aux Québécois, je jure. C'est comme avoir confiance en un enfant, tu sais qu'il va vieillir, mais tu sais qu'il faut que ça y prenne du temps. C'est une société qui est immature, puis à un moment donné, elle va atteindre la maturité. Mais pour ça, il faut le désirer. La maturité, c'est quelque chose qui se réclame profondément.
On peut pas pousser dessus.
Non, exactement. Tu deviens adulte quand tu le décides que tu es adulte, pas quand la cloche a sonné.
Des cloches comme des référendums.
Des référendums, hein? Exactement. Oui. C'est une bonne cloche. Ça, ça marche pas comme ça.
Dans la politique actuelle, dans la chose publique actuelle, le bien commun, si on veut, as-tu des positions particulières sur certains domaines?
Ben moi, en tant que boucher, moi, ce que j'aimerais, c'est faire une association pour les vraies viandes du Québec. Je voudrais que les gens qui produisent la viande au Québec, puis les gens qui vendent la viande au Québec s'associent pour créer un logo qui nous unit tous derrière une bannière qui dit « ça, c'est de la vraie viande ». Ça, c'est des gens qui ont des bonnes pratiques. Ça, c'est les vraies viandes du Québec.
Juste l'appellation contrôlée.
Contrôlée, oui. Pour dire, tu sais, les gens, ils font souvent confiance plus à une marque qu'à un individu, c'est dommage, mais il va falloir qu'on puisse être imputable, puis qu'on puisse avoir une étiquette qui nous donne une certaine confiance pour dire, écoutez, c'est... Ce réseau-là de distributeurs, ils vont acheter de la viande à des gens qui sont responsables, qui sont éthiques, qui ont des morales, qui sont bonnes, puis qui sont nationalistes. Parce que c'est ça aussi, être nationaliste, c'est s'acheter soi-même ses propres productions. Je veux dire, aller à l'épicerie acheter de la viande américaine, aller à l'épicerie acheter de la viande mexicaine, ben c'est t'as beau voter oui... Tu votes pas oui grand-chose quand tu votes juste une fois aux 4 ans ou une fois au référendum aux 15 ans. Tu votes quand tu votes par ton portefeuille, quand tu votes par tes achats, quand tu votes par tes convictions, c'est qu'est-ce que tu dépenses, qu'est-ce que tu dépenses de ton temps, puis de ton énergie, puis de ton argent. C'est pas autre chose.
Est-ce que la viande doit nécessairement être congelée quand on est boucher?
Oui, à un certain point, comme je te dis, il y a une ligne d'arrivée, puis si elle n'a pas atteint la ligne d'arrivée... philosophiquement, tu ne peux pas accepter de perdre de la viande. Ce n'est pas acceptable. La viande est une ressource importante. Tu ne la perds pas. Tu la congèles, tu la sales, tu la cuis, tu fais quelque chose avec. Mais il y a toujours possibilité d'avoir une transformation puis une valorisation. Puis c'est ça le métier de charcutier. C'est charcutier, c'est un cuiseur de chair. Quand le boucher, il y a de la viande fraîche, le boucher, c'est comme un bijoutier qui te présente les plus beaux morceaux. Les plus beaux morceaux partent à la bijouterie. Après ça, ben il y a des restants. Certains restants, c'est des parures, c'est des épluchures. Ça, tu fais du bœuf haché avec. Mais tu as des beaux restants qui sont plus beaux puis qui ont une meilleure valeur ajoutée, qui ont plus de potentiel dans la vie que de finir dans une tourtière. Ben eux... tu as des petits cubes avec ou tu leur deviens un avenir supplémentaire qui va permettre à la boucherie de faire de l'argent, mais aussi de respecter ton produit entièrement. Puis, tu sais, dans le cochon, tout est bon, ben c'est à peu près vrai. Là. Si tu n'as pas vendu ton cochon frais la première semaine, la deuxième, tu rajoutes du sel dessus, tu le fais sécher, tu as de la charcuterie crue.
C'est difficile pour un boucher de nos jours, pour qui suit ta passion, de ne pas être un petit peu traiteur aussi.
Oui, c'est ça, exactement. Le boucher ne peut plus être un boucher des années 80 qui est un coupeur de viande. Le coupeur de viande, je veux dire, c'est plus ça la boucherie, pas parce que tu peux pas juste être ça. tu peux pas compétitionner dans ce milieu-là avec des coupeurs de viande industrielle. Ta seule façon d'être un boucher, c'est d'être un mercenaire de tous les combats. Il faut que tu puisses être un VIP, mais en même temps faire des promotions. Il faut que tu puisses connaître tes clients, puis te souvenir de leurs commandes, puis les préparer à temps. Puis connaître ton comptoir, connaître ton inventaire, savoir où tes produits s'en vont, puis s'il t'en reste, ben des amener à bon port. Un client, un congélateur, un endroit où ils sont pas perdus pour pas jamais. Il faut pas perdre rien. Là, c'est nécessaire quand tu fais quelque chose d'avoir du respect pour le produit que tu travailles, pour les gens qui te l'ont mis entre les mains.
Encore faut-il que le client accepte de goûter une viande qui a, ou une coupe qu'il ne connaît pas.
Ah ben là, c'est ça que là, la relation est importante. Là, c'est là la confiance. Puis aussi, ben, je veux dire, quand tu as un bon volume, tu peux faire des dégustations pour certaines choses qui sont cuites. La charcuterie s'y prête très bien quand on fait des nouvelles rillettes, des têtes fromagées, du foie gras, des choses comme ça. Ça se met sur un bout de pain, tu donnes au client, tu y goûtes, tu m'adoptes.
Bon appétit. Je parle pour moi parce qu'à t'entendre, ça donne faim en tabarnouche.
Oui, je sais, t'es un client régulier, je te vois.
Olivier Jacques Charbonneau, merci beaucoup.
Fait plaisir.
Au plaisir.
C'était L'Aventure, ici Robert Blondin, à la mise en onde de Jean-Sébastien Laliberté. À la semaine prochaine.